n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Dorian Dreuil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous enseignez à l'Université Paris-Nanterre. Le Premier ministre François Bayrou a récemment souhaité pouvoir interroger les Français directement sur la question des finances publiques. Le président de la République, dont c'est la prérogative, devrait en dire plus mardi soir sur TF1. Si la proposition de référendum sur les finances publiques lancée la semaine dernière donc a été largement critiquée par la classe politique, elle reçoit un accueil positif dans les sondages de la part des Français donc. En effet, selon une enquête de l'Institut Elabe, près de 7 Français sur 10 sont d'accord avec l'idée. François Bayrou s'en satisfait. Écoutez-le lors d'un déplacement à Brest où il participait à la journée nationale du souvenir de l'esclavage.
Cette idée a pénétré l'opinion. Beaucoup de citoyens français disent oui au fond. Que nous soyons pour une fois associés à ces décisions, c'est une chose qui nous intéresse et qui est très importante. Alors le monde politique est un peu moins enthousiaste parce que l'intervention directe des citoyens change le rapport de force. Oui, c'est possible de l'organiser, ça demande une réflexion dont j'ai fixé le terme qui est avant le 14 juillet. À la fois la proposition d'un plan et aussi la proposition d'un mode de consultation.
Et toujours selon le même sondage Elabe, publié dans le journal Le Figaro, plus de 70% des Français seraient d'accord pour un référendum sur l'immigration. Justement, sur RTL, à midi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé sur l'hypothèse d'un référendum.
Moi, je suis gaulliste et je crois à la souveraineté populaire. Je crois donc au référendum. Le pire, c'est qu'il y ait un référendum qui soit une ruse sur des sujets secondaires. Parce que je me souviens très bien, il y a 20 ans, très exactement, le référendum sur le traité constitutionnel, 55% des Français disent non. Et 2 ans après, on contourne par le Parlement, par le traité de Lisbonne. Ce référendum où on a contourné la volonté populaire est une blessure démocratique. Donc, ne faisons pas, n'ouvrons pas cette blessure avec un pseudo-référendum. Donc, il faut qu'il y ait un enjeu sur le référendum. Je pense que, tôt ou tard, il devra y avoir un référendum sur l'immigration pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas un phénomène qui ait bouleversé autant la société française sans que jamais les Français n'aient eu à en délibérer. Alors, l'article aujourd'hui 11, la Constitution, ne permet pas d'organiser un référendum sur l'immigration, sauf sur les questions sociales. Par exemple, sur le conditionnement des prestations sociales non contributives, allocations familiales, aux nouveaux venus en France. Ça, c'est possible de le faire.
Dorian Dreuil de la Fondation Jean Jaurès, sur quoi peut porter ce référendum et quelle peut être son ampleur? Alors déjà, sur les questions immigration pour Bruno Retailleau, quels pourraient être les autres thèmes?
Alors, il faut savoir que l'organisation d'un référendum sous la Ve République à l'initiative du président de la République, les thématiques sur lesquelles on peut solliciter l'avis des citoyens sont encadrées. C'est l'article 11 de notre Constitution et le référendum doit porter d'abord sur une loi. Sur un projet de loi. On ne répond pas oui ou non à une question, mais vraiment sur un texte législatif qui doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics ou la politique économique et sociale de la nation ou les services publics qui y ont cours. Donc c'est quand même assez encadré, en tout cas dans le champ sur lequel on peut organiser un référendum. Et donc en l'état, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de référendum sur l'immigration en tant que telle, et on voit bien que celles et ceux qui le porte, qui le pousse d'une certaine manière, essaie de trouver des chemins un peu divers, donc de passer par la question économique ou sociale. Mais c'est a priori un champ, l'immigration, sur lequel on ne peut pas organiser de référendum en l'état actuel de notre Constitution.
Qu'on comprenne bien, il faut que le référendum porte sur une loi qui a déjà été discutée à l'Assemblée et au Sénat.
Qui doit être soumise, effectivement, ça porte sur un projet de loi. Donc on répond oui ou non à un texte d'une certaine manière, ou à la ratification d'un traité, par exemple, comme ça a été le cas il y a 20 ans.
Maastricht.
Oui, en 92. Et sur la question du traité constitutionnel de l'Union européenne en 2005. C'est d'ailleurs assez intéressant que Bruno Retailleau y fasse référence, parce qu'à l'époque, le contournement dont il parle par le Parlement s'est opéré pas sous la présidence de Nicolas Sarkozy, donc de l'UMP à l'époque. Mais ça traduit bien toute la difficulté qu'on a dans notre pays aujourd'hui dans le rapport à l'exercice référendaire? Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs, hein, parce que les référendums, c'est un peu comme la proportionnelle, plus on en parle, moins on en fait, et depuis 1958, on en compte une dizaine seulement si on compte l'adoption de la Constitution, et donc en 67 ans d'expérience, et le dernier remonte à aujourd'hui 20 ans quasiment.
D'autant que la plupart du temps, un référendum est considéré comme un plébiscite, c'est-à-dire le soutien à un homme et non pas à un texte, et ça, c'est un travers qu'on a en France, qu'on aurait en France, qu'on n'a pas forcément ailleurs. Je pense à la Suisse, où il y a des référendums régulièrement, et les Suisses votent sur des textes, quoi.
Oui, sur des textes concrets, dont les effets peuvent se produire rapidement, et dont, dans la culture démocratique suisse, qui est une culture beaucoup plus de démocratie directe que la nôtre, se porte effectivement beaucoup plus sur des sujets, sur des textes, que sur les hommes. Vous savez, il y a cette formule qu'on a qui est de dire que le référendum, finalement, on répond plus à celui qui pose la question qu'à la question en elle-même.
Alors, la question ou les questions, c'est la question de l'ampleur du périmètre de ce ou de ces référendums. Bruno Retailleau n'a pas exclu deux ou trois questions, mais pas un questionnaire à choix multiples qui comprendrait des dizaines de questions, dit-il. Il prévient d'ailleurs, si on fait le café du commerce dans un référendum, ça ne marche pas. Il faut que les réponses attendues doivent, enfin, aient une portée significative et normative. Donc, on rigole pas.
Oui, alors après, le contour du commerce en démocratie, si c'est sollicité l'avis des citoyennes et des citoyens, ça peut avoir des vertus. Mais effectivement, il y a un débat juridico-constitutionnel sur combien de questions il pourrait être posé lors d'une journée référendaire, par exemple. Mais l'enjeu, il n'est pas tellement sur le nombre de questions ou de textes qu'on pourrait soumettre. La difficulté du référendum, c'est de devoir répondre par oui ou par non à un sujet parfois complexe, large, difficile, sur lequel on ne peut pas apporter par nature de nuances, si ce n'est à répondre de manière binaire. Il y a d'autres exemples d'innovation démocratique qui sont autour du référendum. On pourrait imaginer, par exemple, des préférendums, c'est-à-dire d'avoir plusieurs questions posées, mais dont la question ne se répondrait pas par oui ou par non, mais par l'expression de préférence, c'est-à-dire de pouvoir accepter certaines mesures et en rejeter d'autres au sein d'une même loi, ou de pouvoir vraiment être dans un mode de scrutin, un jugement presque majoritaire, qui permettrait de dégager des préférences et trouver du consensus, plutôt que d'être dans un affrontement binaire. Mais c'est vrai que la question se pose, un référendum ou des référendums, il y a encore un flou qui est entretenu par l'exécutif de ce côté-là.
Mais justement, on en saura peut-être un peu plus mardi soir, puisque le président de la République sera sur TF1. Il faut noter que le référendum là, annoncé sur les finances publiques, c'est François Bayrou, mais que le président de la République en a parlé avant lui.
Oui, tout à fait. En fait, le président de la République a souvent parlé de référendum. D'ailleurs, c'est le point commun qu'il a avec tous les présidents de la République depuis 2007. Cette passion pour les annonces de référendum qui ne se traduisent pas. Mais effectivement, Emmanuel Macron en avait parlé lors de ses vœux à la Nation en décembre dernier, en annonçant en calendrier, d'ailleurs, l'horizon de la fin du printemps pour affiner cette proposition de référendum. On y arrive là, on aura certainement plus de détails d'ici deux jours. Et la question des finances publiques était soulevée par le Premier ministre, était assez intéressante, parce qu'effectivement, on voit bien que dans l'opinion, dans la plupart des sondages et dans la plupart des baromètres, il y a une demande de la société d'être beaucoup plus associée, d'avoir d'autres formes de démocratie que une démocratie représentative, qui pourrait être complétée par de la démocratie directe ou semi-directe, comme l'exercice d'un référendum, par de la démocratie délibérative avec des conventions citoyennes. Et quand on regarde de manière un peu plus resserrée, il y a une envie, il y a une appétence de référendum pour 8 Français sur 10 quasiment aujourd'hui, ce qui est assez fort. Et quand on regarde dans les thématiques, il y a effectivement la question des finances publiques qui remonte dans le top 3, ce qui n'est pas incohérent, parce que au-delà du rapport à la dette, le consentement aux impôts est quelque chose d'intimement démocratique. Mais il y a aussi effectivement les sujets migratoires qui reviennent dans les demandes, ou les sujets de fin de vie par exemple, qui sont régulièrement dans les top 3 d'envie de sujets sur lesquels les citoyens souhaitent être sollicités.
On verra bien ce que dit le président de la République mardi prochain. Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès.
Philippe Le Caplain.
Dans Dimanche Politique sur RFI, Jean-Luc Mélenchon a fait la une de l'actualité cette semaine, non pas avec des positions ou des déclarations à l'emporte-pièce dont il est coutumier, mais parce qu'il est au centre d'un livre qui ne le ménage, mais alors vraiment pas. La Meute, c'est le titre, révèle comment le patron de la France Insoumise impose une discipline implacable au sein de son parti, où toute critique est perçue comme une trahison, où les bannissements sont devenus une méthode de gestion. Les auteurs sont Olivier Perroux et Charlotte Belaïche, qui étaient sur le plateau de BFM TV.
On raconte qu'il écrit un jour à Henrik Davy, un ancien député LFI qui a été purgé l'été dernier, ne te trouve jamais au même endroit que moi. On décrit des scènes aussi de violence, des scènes de réunion dans lesquelles il peut hurler sur Raquel Garrido et lui dire de fermer sa gueule, ce sont ses mots. On raconte un coup de genou qui est la scène à un collaborateur, enfin ses anciens lieutenants. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui se laisse aspirer par sa colère, c'est comme ça que ses proches le décrivent. Comme s'il se laissait engloutir là-dedans. Et d'ailleurs, lui-même en parle. Et il a longtemps dit que cette colère lui faisait perdre beaucoup de temps, d'énergie. Oui. La violence, c'est son mode de fonctionnement. Beaucoup la décrivent. La violence et aussi la vengeance. L'a écarté beaucoup de gens. C'était autour de Jean-Luc Mélenchon. On peut citer Danielle Simonet, qui a été elle aussi purgée cet été. Mmh. Son tort, c'est d'avoir mis en garde Jean-Luc Mélenchon contre Sofia Chikirou. Parce que elle la rencontre à la mairie du 20e, où elles sont toutes les deux élues, et elle la voit, parce que Sofia Chikirou, elle fait un passage à droite, en fait. Donc elle met en garde Jean-Luc Mélenchon contre le cynisme de cette femme, et Sofia Chikirou n'aura de cesse de vouloir se venger, elle le dira, j'aurai sa peau, et elle l'aura.
Alors, la parution de cet ouvrage a suscité de nombreuses et fortes réactions. Voici celle de Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, qui a lu ce livre, comme il l'a dit sur le média 20 minutes.
J'ai pu le lire, bon, c'est un collage de ragots, de fausses informations, bon, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu que à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant « Manuel Bompard, achète-toi un cerveau ». Bon, alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris ça comme une invention. Comme j'ai rencontré les auteurs de ce livre dans la rédaction de cet ouvrage, je me disais que peut-être, je ne sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous aviez eu ce type de travail à faire, vous m'auriez posé la question au moment où on se serait rencontrés pour savoir si c'était vrai ou pas, et puis j'aurais pu vous dire que c'était faux, et au moins il n'y aurait pas eu quelque chose de faux qui aurait été écrit dans ce livre.
Et monté également au créneau aujourd'hui Manon Aubry, membre de la France Insoumise, députée européenne, ce matin sur Europe 1.
Attendez, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler Jean-Luc, je vais lui demander qu'est-ce que je dois répondre à cette question. Je préfère le prendre à la rigolette. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question, mais pardon, mais c'est un peu insultant pour nous, militants politiques. Vous pensez qu'on n'est pas doté d'une capacité de penser par nous-mêmes? Franchement, c'est aussi insultant. Alors, pour les responsables politiques qu'on est, mais derrière, pour les dizaines de milliers de militants à qui on dit, finalement, vous êtes que des pions. Ils utilisent ce mot, puisque je l'ai lu, ce livre, ils utilisent ce mot, pion. Mais ça ne dit rien du combat politique qui est le nôtre, de la France insoumise qui a permis à la gauche de tenir debout, qui a quand même fait 22% à l'élection, à la dernière élection présidentielle.
Justement, est-ce que la France insoumise, ça existe en dehors de Jean-Luc Mélenchon?
Bah oui, la preuve, vous m'avez invité ce matin.
Quant à Clémentine Autain, elle a été membre de LFI, elle est aujourd'hui députée écologiste. Elle donne du crédit à ce qui est écrit dans la Meute, puisqu'elle a quitté la France insoumise.
Ce livre, au fond, il explique pourquoi j'ai rompu avec la France insoumise. Parce que je suis fondamentalement attachée à la démocratie et je n'ai pas rompu avec la France insoumise pour des raisons programmatiques. Je partage le programme de l'Avenir en commun. Je suis attachée aussi à la force militante, à l'énergie qui a pu être déployée, suscitée grâce à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et à cet outil politique que nous avons créé. Je me reconnais dans cette gauche bien à gauche. Mais la question démocratique et une certaine culture aussi, un profil politique qui est aujourd'hui clivant, fait que je ne me reconnais pas en fait parce que ça empêche de gagner et ça empêche de rassembler.
Dorian Droy, politologue, ce qui est dit de Jean-Luc Mélenchon, dit-il quelque chose de l'appareil politique qu'il a construit ?
Oui et non. Alors d'abord, je pense que c'est toujours important de saluer ce type d'objet, de document, parce que Sur la forme, en tout cas, il y a de nombreux témoignages à visage découvert, donc il y a un vrai travail d'enquête de journalisme politique, et ça permet aussi d'apporter de créer du débat au-delà même des personnes qui sont citées. Alors oui et non, on peut plutôt avoir l'impression que ce livre révèle des choses sur les personnalités de cet appareil politique et les interactions entre ces personnalités, plus que sur ce qui fait système ou presque écosystème, parce que pour ce qui concerne la France insoumise, les stratégies sont assez claires et limpides. On n'a pas de surprise dans le fonctionnement, sur le fonctionnement de la France insoumise, en particulier d'ailleurs écosystème, parce que il y a effectivement l'appareil militant de campagne électorale de la France insoumise qui s'est construit comme un mouvement politique et pas contre un parti politique, en assumant le fait de ne pas être une coalition de courants ou de ne pas faire vivre de courants de pensée trop éloignés les uns des autres, mais qu'il y ait une certaine hégémonie dans l'objectif, la méthode, la manière, le fond et le programme, et écosystème, parce que s'y est ajouté des instituts de réflexion, de laboratoires d'idées, des médias à certains moments. Et donc, de ce point de vue-là, la question qui se pose, c'est est-ce que cet écosystème est en capacité de gagner ou pas ? Du point de vue des personnes, je trouve que ça révèle beaucoup plus voilà, ce qui est de l'ordre d'une certaine violence du monde politique qui peut exister, et des relations interpersonnelles. Voilà, je trouve que ça révèle plus l'ordre des gens que l'ordre de l'organisation en elle-même.
La cote de popularité de François Bayrou continue de baisser. Selon un sondage IFOP, elle passe pour la première fois en dessous de celle d'Emmanuel Macron, avec seulement 27% des Français qui approuvent son action. Le couple exécutif, nous en parlons avec vous, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Qu'est-ce que cela veut dire de cet attelage politique ? Duo ou duel ?
Eh bien, si l'on regarde les dernières initiatives du Premier ministre et du Président, on a un peu l'impression d'une course à l'échalote entre eux pour en appeler aux Français. À peine Emmanuel Macron avait-il évoqué il y a quelques jours sa volonté d'organiser une convention citoyenne sur les rythmes scolaires que François Bayrou est sorti du bois pour demander un référendum sur un plan budgétaire, lançant une balle dans le jardin du chef de l'État auquel revient la prérogative de convoquer une telle consultation. En guise de réponse, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait s'exprimer la semaine prochaine dans une émission télévisée pour évoquer notamment ces pistes de référendum, parmi lesquelles ne figurent pas les questions budgétaires. Comme si les deux jouaient une partition en polyphonie, ni tout à fait duel, ni vraiment duo. Une ministre résume avec délicatesse cette dissonance au sein du couple exécutif. On a des voix nuancées. Est-ce incompatible et contradictoire ? Je ne sais pas. Quand une autre estime que cet épisode est révélateur en déclarant « Jusqu'à présent, on n'avait pas le sentiment de cette compétition. »
Alors Valérie, qu'est-ce que ça révèle finalement ?
Eh bien d'abord que chacun poursuit ses objectifs politiques propres. François Bayrou a envie de rester Premier ministre le plus longtemps possible. Il a déjà réussi à durer plus que Michel Barnier à Matignon, c'était son premier objectif. Il cherche maintenant comment passer l'écueil du prochain budget en prenant les Français à témoin de ses efforts. Mais sa méthode jugée parfois brouillonne, sa communication à l'instinct lui joue des tours et le font chuter dans les sondages. Une ministre juge d'ailleurs que cela donne une raison à Emmanuel Macron de se réjouir, puisqu'il a un Premier ministre grâce auquel il est populaire.
Dorian Droy, duo ou duel alors ?
C'est un duo qui se transforme en duel presque institutionnel, parce que jusqu'à présent, ce que dit Valérie Gasse est très juste, on avait plutôt l'impression qu'il y avait une bonne répartition des rôles et responsabilités, qu'on était même revenu à une certaine lecture originelle de la Ve République, avec un président de la République chef de l'État sur des enjeux internationaux, sur son secteur des affaires étrangères, et un Premier ministre plus les mains dans le cambouis au quotidien, à se demander comment faire voter un budget ou trouver des voies de passage pour une réforme. Et dès qu'on va sur le sujet de la participation citoyenne, du coup, là, les cartes se brouillent un peu, avec un président de la République qui annonce une convention citoyenne sur un sujet qui est plutôt très réglementaire, gouvernemental, sur lequel le Premier ministre aurait dû faire une lettre de saisine directement au CESE, et un Premier ministre sur un sujet qui est vraiment de son champ parlementaire et du budget, qui annonce un référendum qui est de l'ordre de la prérogative du président de la République, ce qui donne une image un peu, peut-être, de brouillis sur les sujets de participation citoyenne aujourd'hui.
Merci pour ses analyses et
merci
commentaires d'Orian Droy, enseignant à l'Université Paris-Nanterre. Dimanche politique à retrouver sur les applis et sur le site internet de Radio France International.